décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 19, salut Manu.
Salut Mag.
Salut Luc.
Eh bien Manu, qu'est-ce que tu nous as mis au sommaire de la revue de presse ?
Une jolie petite revue de presse, 5 articles.
Le Monde.fr, de l'utopie au désenchantement, les 25 ans contrariés du web par William Oduro.
On reprend un sujet déjà abordé, le web c'est son anniversaire, mais effectivement les créateurs et puis les utilisateurs globalement se rendent compte que ce merveilleux outil qui apportait une grande utopie de communication, eh bien il y a plein de défauts.
Développé.com, l'IoT est un danger pour la vie privée. Une technologie à risque accordant peu de place aux logiciels libres, par Christian Olivier.
IoT.
Internet of Things.
Donc l'Internet des objets, les objets connectés, on en a beaucoup parlé, hein. Ce sont des passoires de sécurité.
Nicolas, d'habitude, il aime bien critiquer parce qu'il connaît et il sait que c'est vraiment un truc à problème.
C'est tellement facile de critiquer.
Oui, mais c'est plus amusant de se moquer.
01net, Peertube veut devenir l'alternative française et décentralisée à YouTube, par Camille Suard.
On reprend un sujet déjà abordé aussi, Peertube, donc c'est un équivalent, une nouveauté qui est en train d'être développée en ce moment même par Framasoft et qui essaye de concurrencer YouTube, le géant, pour diffuser des vidéos, donc c'est quelque chose d'intéressant, une grande initiative, décentralisée, libre, et on espère que ça va bien marcher.
Décentralisée, ça veut dire qu'on a des serveurs, chacun peut monter son serveur dans son coin. Alors ça nécessite des ressources, hein, parce que la vidéo c'est lourd, il faut avoir quand même des machines qui tournent derrière, mais c'est à la portée d'une association, d'un particulier qui voudrait quand même se donner les moyens. Et l'avantage, c'est qu'elles discutent les unes avec les autres. Et donc, plutôt que d'avoir un gros serveur, c'est distribué.
On peut espérer que les administrations françaises, par exemple, prennent exemple sur ce genre d'outils, plutôt que d'utiliser YouTube pour diffuser leurs vidéos, ce serait pas mal.
En tout cas, il y a des festivals qui l'utilisent, puisque les Geek Fairies ont monté leur propre serveur.
Un autre principe aussi qu'il y a derrière, c'est qu'on a les différents serveurs, mais quand on va appeler une vidéo pour la regarder, tous les gens qui sont en train de la regarder vont partager, selon le principe du peer-to-peer, qui jusqu'à maintenant a toujours été conspué comme étant un truc de pirate. Là, l'idée, c'est que chacun peut mettre ses vidéos, et plutôt que d'avoir des monuments, des trucs monstrueux qui sont complètement déséquilibrés et inadaptés à Internet, eh bien, on distribue la charge sur tous ces utilisateurs, on est vraiment dans la logique initiale d'Internet.
Nouvelle République, des pistes autour des logiciels libres par la rédaction.
Donc ça se passe à Saint-Paterne-Racan. Il y a une foire qui s'est passée le 1er mai où justement ils abordaient pas mal de sujets qui nous tiennent à cœur, des démonstrations, des présentations de logiciels libres, de jeux, de discussions sur la vie privée notamment. Une initiative locale qui est plutôt intéressante.
Saint-Paterne-Racan, c'est en Indre-et-Loire, non ?
Exactement.
Et le dernier article, développé.com, Troll dit une blague de Richard Stallman sur l'avortement crée la polémique, par Mickaël Guillou.
Alors Troll dit, c'est dans la continuité lundi, mardi, mercredi, nanana, Troll dit...
C'est le jour du troll.
Le jour du troll, c'est grosses bêtes qui disent n'importe quoi pour vous déclencher des réactions.
C'est de la polémique.
Oui, création du buzz, ces choses-là. Donc c'est tout un article qui reprend une actualité qui s'est passée dans un projet de logiciel libre, GCC. Et c'est une actualité qui est assez sensible parce que ça a un peu gueulé en lien avec une vieille blague qui traînait dans de la documentation d'un logiciel libre, une grosse brique, donc un compilateur qui s'appelle GCC, un truc assez énorme, hyper technique. Et donc dans la documentation de la fonction avorter, eh bien, il y avait une blague sur l'avortement.
Et quelle est la nature de cette blague ?
Alors, comme son nom l'indique, et par analogie à l'avortement chez une femme, la fonction abort provoque une interruption anormale d'un programme. C'est ce qui explique d'ailleurs la documentation sur la fonction. Et si dans certains cas, il peut être acceptable de mettre fin à un programme, a écrit RMS, donc on voit bien l'analogie qui peut être faite entre l'avortement et la fonction abort. Préavis de modifications futures, des réglementations fédérales proposées en matière de censure peuvent nous interdire de vous fournir des informations sur la possibilité d'appeler cette fonction. Nous serions obligés de dire que ce n'est pas un moyen acceptable de mettre fin à un programme, a écrit RMS dans la documentation de la fonction abort.
Alors manifestement, ça fait référence à l'actualité américaine et à la mise en cause de l'avortement chez les humains.
Voilà.
Et donc Stallman fait une sorte de parallèle sur l'avortement. On peut l'interpréter comme étant quelque chose de plutôt pro-avortement et plutôt critique par rapport aux politiques anti-avortement qui peuvent être en place. On sait qu'aux États-Unis, il y a pression politique
énorme,
super forte là-dessus, beaucoup plus que chez nous.
Et qu'il y a aussi énormément de sites qui donnent des mauvaises informations pour empêcher les avortements.
Ça fait partie de trolls assez récents sur les fake news. Et là, les gestionnaires, les développeurs du projet GCC, de ce gros compilateur, eh bien, ils avaient décidé, il y a peu, en voyant cette blague, de la virer et de mettre une documentation technique.
Ça faisait longtemps qu'elle était là ou...
Des dizaines d'années. Il semblerait que c'était depuis...
Depuis 26 ans.
26 ans, donc comme quoi...
ça tenait.
C'est un sujet qui dure depuis... Et donc, ils ont dit, voilà, on enlève ce truc, quoi.
Voilà, donc ça n'a pas fait plaisir à l'auteur de la blague, donc Richard Stallman en personne. C'est le responsable initial et en continu du projet. Donc, c'est remonté à ses oreilles, ils ont commencé un peu à polémiquer. Et en fin de compte, en fin de conversation, il a décidé d'utiliser sa prérogative de chef de projet pour que la blague soit réinstituée dans la documentation, ce qui a été fait assez rapidement.
Mais c'est surtout qu'elle est encore plus d'actualité maintenant qu'elle l'était il y a 26 ans.
C'est une des règles, enfin, c'est une des explications qu'il a données pour dire non, n'enlevez pas cette blague qui peut certes être un peu de mauvais goût, bien sûr. Une blague sur l'avortement, c'est toujours compliqué.
Il aurait dû faire pire, mais...
Il a des fois fait pire, hein. On sait que Richard Stallman, il n'a pas toujours
bon goût.
Celle-là
est plutôt engagée, et voilà. Fin...
Elle est presque fine, en comparaison d'autres. Et en plus, elle s'applique bien, parce que la fonction abort, avorter en anglais, eh bien, c'est une fonction qui est technique, qui est vraiment utilisée dans les programmes.
Alors, ce que je trouve rigolo, c'est que voilà, t'as quelque chose qui est fait sous une forme plus ou moins humoristique il y a 25 ans, et qui, avec un changement de politique, peut finalement devenir embarrassante... On ne sait pas quel est le positionnement politique des gens qui contribuent à GCC. Et du coup, il fait un truc ultra technique. Du coup, il met un morceau de politique pur et dur à l'intérieur d'un morceau de code, quoi. Donc, c'est un mouvement assez intéressant.
Oui. Et d'ailleurs, ça peut être le point de départ de notre conversation de ce soir.
Parce que cette blague-là pourrait être considérée comme un easter egg.
Effectivement.
C'est quoi un easter egg ?
Alors, ça concerne...
C'est un œuf de Pâques, déjà.
Oui. J'ai envie de chocolat. Voilà.
En fait, c'est quelque chose qui n'est pas spécifiquement lié à l'informatique. Il y a une théorie, on n'est pas sûr que ce soit vrai, ça n'a pas été confirmé, mais il y a une théorie qui dit que l'expression easter egg viendrait d'un film.
Oui, The Rocky Horror Picture Show, un film fameux. Et dans ce film-là, il semblerait qu'au montage, une fois les images montées, on voit des œufs dans le film, il faudrait aller vérifier, et que ces œufs venaient d'une après-midi justement de Pâques, où les comédiens avaient caché des œufs un petit peu partout, et qu'ils en avaient oublié certains.
Et du coup, ils seraient restés dans le décor.
Et dans le film.
Et dans le film. Bon, c'est une théorie, hein, elle n'est pas confirmée. Mais alors, quel rapport avec l'informatique ? Donc, dans l'informatique, le premier easter egg, donc il y a cette idée d'avoir un petit élément caché, hein, comme les œufs de Pâques qu'on met dans le jardin. Le premier easter egg serait arrivé dans les années 80, dans le monde du jeu vidéo, donc chez Atari. À l'époque, c'était l'éditeur phare.
Les consoles de jeux avec des jeux très pixelisés.
Oui, très 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 pixelisés. À l'époque, ils ne faisaient pas la publicité des auteurs des jeux, ils n'étaient pas mis en avant.
C'est bizarre, ça, quand même.
Il n'y avait pas de générique.
Oui, bah oui.
En fait, ils avaient peur de se faire piquer leur main d'œuvre, parce que c'est un marché en pleine croissance, et je suppose qu'il n'y avait pas tant que ça de développeurs disponibles.
Et de développeurs compétents sur la plateforme, ça ne devait pas être ça. Ouais.
Et du coup, il y a un développeur qui l'avait un petit peu mauvaise, et qui avait prévu une sorte de petite fonction cachée avec un pixel gris, et si on mettait son personnage sur le pixel gris, on avait un élément qui s'affichait qui disait ce jeu a été développé par un tel. Et le type s'est barré de la boîte, et le temps que l'éditeur s'aperçoive que cette fonction existe, et le type était déjà parti, le jeu avait déjà été diffusé, ils se sont dit on a plus intérêt à l'assumer et à en faire finalement un élément de pub en disant regardez, on a des petits trucs rigolos cachés, plutôt que d'essayer de rattraper le coup.
Et c'est devenu quelque chose de majeur dans la culture informatique en général, dans le logiciel libre notamment. Les easter eggs, on en trouve, mais quasiment partout.
Alors Magali, easter egg, ça a un lien avec l'April ?
Bah oui, moi quand tu m'as dit easter egg, tout de suite j'ai pensé à cette entreprise française spécialiste de GNU Linux, qui a des locaux vers Montparnasse sur Paris et qui effectivement prête ses locaux à l'April.
Prête, sous loup, un des bureaux. Hein.
Qui héberge effectivement l'April dans des bonnes conditions, donc merci à eux, pour montrer que la notion est suffisamment développée pour qu'une boîte prenne ce nom-là. Alors on en retrouve dans le jeu vidéo à tour de bras.
À foison. De partout, il y a des jeux vidéo qui instituent les easter eggs comme une nécessité quasiment, et les gens savent qu'il y en a dedans. Alors parmi les easter eggs, il y en a un qui est assez rigolo, qui est... Alors, est-ce que c'est un easter egg ? C'est compliqué, hein, la définition est quand même relativement floue. C'est le code Konami. Et il semblerait que dans les vieilles consoles des années 80, il y a des testeurs qui n'arrivaient pas à aller jusqu'au bout des jeux qu'ils devaient tester. C'est compliqué quand même.
Ça, je suppose, tester tel bout, t'as pas envie de te taper tout le jeu à chaque fois.
Exactement.
Quand tu
veux les... Et donc, il y en a un, ce développeur, ce testeur, il a mis en place un code, une suite de touches, quand on les appliquait, ça nous permettait d'activer toutes les options du jeu, de rajouter des vies ou même d'avoir des vies infinies. C'est le code Konami. Et ce code-là, il a tellement bien marché, parce que le testeur l'a utilisé beaucoup, il l'a tellement beaucoup utilisé qu'il l'a oublié dans la version finale du jeu. Et cette version finale, elle a été fournie, vendue, distribuée. Et ce morceau de code-là, il a été réutilisé par les autres testeurs et même par les développeurs. Il a été intégré dans quasiment tous les jeux de Konami et plus tard dans d'autres jeux d'autres consoles.
Et du coup, plein de joueurs ont appris à le faire et peuvent tricher.
Très aisément. Alors, c'est tellement facile de tricher avec ce code qu'en fait, ça enlève tout l'intérêt du jeu. Mais c'est intéressant à connaître. Parce qu'on peut être bloqué à une étape particulière, par exemple, et on veut juste avancer à l'étape suivante, et comme le testeur d'origine, on débloque débloque son niveau en avançant grâce à ça.
Ça, c'est quelque chose d'assez fréquent de faire des systèmes de triche, mais qui sont un petit peu cachés, où c'est pas juste voilà, trop facilement pour mettre ces éléments-là. On peut avoir aussi dans des mondes ouverts, alors je pense à un jeu contemporain qui s'appelle Kerbal Space Program, qui est un jeu de simulation de conquête spatiale. C'est un monde très ouvert, on peut aller sur des planètes, des lunes, des machins. Et il y a des coins où, si on se pose à un endroit très précis, on tombe sur un objet ou quelque chose qui est un petit peu surprenant.
On peut imaginer les joueurs fous de recherche de ce genre de choses-là qui vont essayer d'atterrir un peu partout pour déclencher l'easter egg. Et une fois qu'il y en a un qui le sait, il va le dire aux autres. Il va pas forcément donner toute l'info, ou au contraire, il va donner le détail qui permet de reproduire cela. Et les gens vont devenir un petit peu des collectionneurs d'easter eggs.
Moi, j'ai un easter egg sur mon téléphone. Là, ouais. Depuis ce soir, j'ai un petit chat.
Oui, ce qu'on a cherché
j'ai
un petit peu.
J'ai un petit chat, hein, et que je dois le nourrir et pour pouvoir les collectionner, ça va être trop bien. Et j'ai le moyen de le nourrir. Et si je nourris bien mon petit chat, il va attirer d'autres petits chats. Et je l'ai trouvé en allant dans les paramètres, en appuyant hyper longtemps sur version Android. Alors, hyper longtemps ou même plusieurs fois. Et là, j'ai eu une sorte de gros N qui est apparu et une tête de petit chat. Voilà. Et après, je suis allée chercher le petit crayon dans les paramètres. Et maintenant, je peux lui nourrir, soit en lui donnant du poisson, du poulet, des beignets. Et voilà. Je vais pouvoir les collectionner.
Comme ça, tu vas pouvoir devenir la vieille folle au chat. Mais ça sentira moins mauvais.
En sachant que ça, c'est pour Android Nougat. Ouais. Sur les autres Android, il y a d'autres easter eggs qui se déclenchent un peu de la même manière.
Google sont très à fond là-dedans. Quand on clique sur les liens, les machins, etc., il y a plein d'easter eggs chez eux. C'est quelque chose de très fréquent.
Chez Debian et Ubuntu, si tu fais apt-get mou, M-O-O. Tu peux aussi avoir un petit gnou en ASCII. Gnome aussi s'amuse à nous faire des petits clones de Space Invader. KDE, E. Alors E, c'est la question à la réponse. Qu'est-ce que l'univers avec égale 42. Bref, tout le monde s'éclate
À l'April, quand on est sur IRC, donc le canal de chat, de discussion, il y a un robot donc à qui on peut envoyer des commandes qui s'appelle Alexandrie. Et notamment, ça permet de mettre un article dans la revue de presse. Il y a une petite syntaxe très simple. Et puis, hop, il le rajoute dans la revue de presse. Et si on lui dit Alexandrie, Alexandra...
Il chante
et il cite du code François. Voilà, ça ne sert à rien, mais ça fait partie de... Voilà, donc
c'est le principe. Hein,
quand quelqu'un s'ennuie...
C'est le principe de l'easter egg. Voilà.
Après, je me rappelle de certains... âgé de l'April, où on obligeait le trésorier à dire certains mots dans son rapport, et s'il les disait tous, on se faisait des clins d'œil entre nous. Hein, c'est...
C'était une sorte de bingo. Hein.
C'est voilà. Ça, mais c'est rigolo.
Ben voilà, c'est un peu ça, cette idée qu'il y a dans l'easter egg, enfin, de voir un peu l'envers du décor, d'être un petit peu en dehors des marges. Et ça, c'est quelque chose qui correspond bien à l'informatique. Alors, dans cette notion de aussi commentaire dans le code, comme le code, il n'est pas vu par tout le monde, on est sur un domaine un peu particulier. Alors, l'easter egg, il y a toujours un côté... trivial, assez léger et secondaire.
Alors, il semblerait qu'il y avait un simulateur de vol dans Excel. Moi, je trouve pas ça hyper secondaire quand même.
Ça fait
gros
baisser
truc.
La productivité.
C'est clair.
Mais on a d'autres exploitations. Alors, j'ai en tête notamment dans la cartographie ou dans les bases de données de citation. Là, il y a un usage un peu plus particulier qui consiste à mettre de fausses informations dans la carto ou à modifier des citations d'auteurs pour pouvoir vérifier si d'autres personnes récupèrent nos données et les pompent.
Donc, par exemple, mettre une rue avec un nom qui est faux ou mettre la rue dans un mauvais sens.
Une rue qui n'existe pas.
Voilà,
ou comme ça.
Et si elle apparaît sur une carte d'un concurrent, nécessairement, c'est qu'ils l'ont récupérée sur notre propre carte. Voilà.
Il y a des années de ça, le WikiQuote, donc le wiki des citations, un des projets de Wikipédia français, avait été entièrement remis à zéro. C'était au début, parce que quelqu'un avait été repompé toutes les citations sur les bases de données. Et normalement, on a le droit de recopier à la main, mais on n'a pas le droit de recopier automatiquement une base de données, comme on ne pouvait pas prouver que ça avait été fait à la main, et ce genre de choses, et les gens, pour éviter les ennuis, parce qu'évidemment, il y a une menace de procès, on dit ok, on met tout à zéro. Le wiki des citations a été effacé. L'easter egg, c'est un petit élément de culture, que informatique, mais largement informatique.
Et ça devient gros, hein, parce que là, Ready Player One, par exemple, le dernier film de Spielberg,
un documentaire, tu veux dire.
Quasiment, hein, à ce niveau-là, ça parle de jeux vidéo et d'easter egg. Il y a de gros morceaux là-dedans. Et probablement qu'en revoyant le film, on découvrirait des easter eggs. Je ne suis pas étonné qu'ils aient fait quelque chose de ce type-là. Et les easter eggs, ça a l'air d'être très important, d'un point de vue du droit d'auteur, quoi.
Alors, effectivement, puisque le gars qui a inventé l'easter egg en informatique dont on parlait, au final, il voulait cette reconnaissance de dire c'est moi qui l'ai fait. Et puis, il y a cette idée un peu de marquer le territoire. Hein. C'est un peu comme quand on va saccager un lieu touristique en disant ah, j'étais là en telle année.
Comme mettre une signature en bas d'un tableau.
Mais ça, c'est visible, quoi. Je veux dire, la signature, c'est visible.
Alors, il y en a, il semblerait qu'ils mettent ça aussi dans les tableaux. Il y a des petits éléments qui permettent de savoir que c'est tel auteur qui l'a fait lui-même ou si c'est un de ses étudiants. Ouais. Et je les connais pas, hein, tous ces détails.
Voilà, mais bon, ça correspond à quelque chose de très humain et de longue date. Donc voilà, donc ça existe également dans l'informatique et ça peut nous emmener, comme la blague de Stallman, sur des sujets très très éloignés, ou en tout cas faire passer des bons moments, comme Magali là, qui fait un élevage de chats maintenant.
À la semaine prochaine.
Allez, salut, salut tout le monde.